C'est un rapport commandé en mai 2024, un rapport qui a fait et continue de faire grand bruit, un rapport dévolu aux frères musulmans et à l'islamisme politique dans notre pays, remis au gouvernement et examiné la semaine dernière en conseil de défense. Mais par-delà les polémiques, quelle est la réalité sociale, le poids réel, l'influence véritable des frères musulmans en France? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités. Pierre Conessa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense et spécialiste des mouvements islamistes. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage intitulé « État des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme », un ouvrage qui a paru en 2023 aux éditions de l'Aube. Vous avez par ailleurs signé en 2020 chez Robert Laffont le livre intitulé « Avec Dieu, on ne discute pas les radicalismes religieux désislamisés, le débat face à vous et à distance » à Ouest Séniguer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence HDR à Sciences Po Lyon et chercheur au laboratoire Triangle. Vous avez signé en 2022 aux éditions du Bordelot l'ouvrage intitulé « La République autoritaire, Islam de France et illusions républicaines 2015-2022 ». Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du Soir.
C'est un rapport qui souligne très clairement une menace à la fois sur notre tissu associatif, sur les institutions républicaines et aussi sur la cohésion nationale. Face à cette menace, il faut bien entendu réagir.
Alors il faut faire attention avec ça, ça existe. C'est là le rapport le qualifie bien, mais il ne faut pas pour autant penser qu'il y en a partout parce que ça peut rendre complotiste ou paranoïaque.
Tout effort d'intégration semble perçu comme une stratégie d'infiltration. Derrière ces accusations infondées, c'est une stigmatisation de l'islam et des musulmans qui se dessine.
400 personnes actives, disent-ils, vraiment c'est pas beaucoup. Pour moi, ce que ça dit surtout, c'est que l'islamisme aujourd'hui, il est moins dans des organisations, les frères musulmans, que dans les réseaux sociaux.
Le danger est réel, il a été aujourd'hui démontré. Il nous appartient maintenant de prendre des mesures, mais pas des mesures à la va-vite.
La liste est longue, Pierre Conessa, des rapports qui traitent de l'islamisme politique en France, rapports d'experts, rapports d'universitaires, rapports de hauts fonctionnaires, on ne les compte plus. Qu'est-ce que le rapport rendu la semaine dernière au gouvernement, je le rappelle, examiné en Conseil de défense, c'est tout de même quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il apporte de plus ?
Oui, vous avez raison de rappeler quand même que le cimetière des rapports administratifs abandonnés, si vous voulez, est plein. Bon, au moins, ça veut dire peut-être celui-là serait-il pas enterré. Il a une originalité dans la démarche, c'est-à-dire qu'effectivement, à la différence du rapport Stasi ou du rapport Aubin, qui a eu en leur temps quand même déjà attiré l'attention sur cette islamisation de certaines pratiques au milieu scolaire et autres, bon. Là, le président a demandé aux services administratifs de faire une recension de l'ensemble du territoire, et donc en utilisant les moyens de l'État, de façon à avoir quelque chose qui soit véritablement une biopsie du système frères musulmans. C'est évidemment centré sur les frères musulmans, donc on peut toujours dire qu'il y a d'autres menaces, il y a d'autres partis, etc. Mais enfin, quand on vous donne un sujet, si vous expliquez qu'il y a autre chose, en général, vous répondez pas à la question. Donc effectivement, ce rapport, il a cet avantage-là d'ouvrir un débat qui, évidemment, va obliger maintenant l'exécutif à décider quelque chose. Et c'est ça qui, effectivement, est peut-être l'originalité la plus forte. Je vous fais pas le listing de rapports, c'est pas la peine, je veux dire... Il y a même des livres, si vous voulez.
Vous avez commencé déjà le rapport Stasi, le rapport Aubin, on s'en souvient, qui concernait le cadre scolaire, la question du voile à l'école pour ouais. Le rapport Aubin. Il y en a bien d'autres hein, depuis 2004-2005. À Ouest Séniguer, est-ce que vous-même, vous voyez dans ce rapport quelque chose de nouveau? Est-ce que vous identifiez des apports, justement, de ce rapport?
C'est positif et je souscris à ce qu'a dit Pierre Conessa en matière de, je dirais, d'entrée en matière auprès des chercheurs. Des chercheurs ont été consultés. Moi-même, j'ai été consulté. J'ai pu apporter certains éléments d'éclairage. Et à ce titre, il faut savoir gré aux auteurs d'avoir fait cet effort empirique pour rencontrer à la fois des académiques, mais également des acteurs de terrain. En revanche, du point de vue, il y aurait un certain nombre de choses à dire et à souligner. D'abord, il y a quelque chose qui traverse de bout en bout le rapport, c'est une forme de présomption de culpabilité vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs identifiés à tort ou à raison comme des frères musulmans. Il est difficile, et les auteurs ont eu du mal, je pense, à le faire, à identifier stricto sensu ce qui relève de l'islamisme ou du frérisme, selon l'expression consacrée. À partir de cette difficulté d'identification, d'objectivation du frérisme, un certain nombre de personnes, d'individus ou de groupes ou d'acteurs collectifs ont été reconnus comme étant des frères musulmans et accusés d'une forme de pratique de la subversion de l'ordre social, de l'ordre politique. Et c'est peut-être de ce point de vue-là que je suis un peu déçu. Par ailleurs, ce que j'ai qualifié depuis 2022, cette politique du soupçon, se manifeste également contre des chercheurs. Dès les premières pages de l'introduction, je crois page 5, il est dit qu'il y aurait une dichotomie entre les pessimistes, des chercheurs pessimistes, et des chercheurs en empathie. L'empathie a un sens en sociologie. L'empathie, c'est comprendre ce que disent les acteurs sans forcément souscrire à ce qu'ils disent. Et j'ai l'impression que, en qualifiant ces chercheurs d'empathiques, on les place comme des... on fait comme s'ils étaient complices de cette idéologie. Alors, cette idéologie, elle est très conservatrice. On peut être en radical désaccord avec les visions du monde véhiculées par les porteurs de cette idéologie, mais dès lors que cette idéologie ne sort pas des règles établies par la loi, il me paraît difficile de vouloir aller plus loin en matière de répression. Or, quand on écoute le ministre, on a le sentiment qu'il faudrait aller vers encore plus de répression.
On va y revenir. Je voudrais juste vous faire réagir, Pierre Conessa, sur les deux expressions qui viennent d'être employées et sur les deux idées qu'elles véhiculent. Une présomption de culpabilité adressée à l'encontre de certaines personnes musulmanes considérées comme des frères musulmans et une politique plus générale du soupçon dans ce rapport. Ces deux éléments que vous avez décelés vous-même ?
Oui, enfin, je crois que, si vous voulez, c'est toujours facile quand on analyse un rapport de dire oui, mais c'est pas assez précis. Ça, c'est une critique banale. Il n'y a pas de carte de frères musulmans. On ne va pas demander aux gens s'ils ont une pièce d'identité prouvant qu'ils sont frères musulmans. Il y a une pratique, il y a des organisations, il y a des modes d'action. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en particulier l'originalité des frères musulmans, c'est qu'à la différence des salafistes, ils se battent sur des théâtres secondaires. Des théâtres secondaires dans lesquels la République va se trouver en difficulté. Prenez le cas du voile pour les petites filles. Est-ce que c'est à l'État de dire aux familles il faut, vous pouvez pas voiler vos filles.
Les théâtres secondaires, il faut illustrer de quoi il s'agit. C'est notamment des sous-sujets que l'on peut chacun aller aborder. Je pense notamment à la question de la nourriture à la cantine, des sorties scolaires. Vous l'avez mentionné, du voile. C'est ce que vous appelez les théâtres secondaires, Pierre Conessa.
Oui, parce qu'effectivement, l'État est pas en mesure, si vous voulez, de se battre sur tous ces sujets-là. Prenez le cas de la nourriture à la cantine. Si effectivement chacune des communautés qui composent la société française, et je répète souvent que la société française est le pays de l'Union européenne qui a la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté vietnamienne. Effectivement, on voit bien que si chacune avait une politique de séparatisme, comme justement le traduisent les frères musulmans, ce serait ingérable. Bon. Donc il ne faut pas renverser la charge de la preuve. Le système d'intégration fonctionne, mais il y a un séparatisme musulman. Et c'est là-dessus que le rapport insiste.
Et puis, séparatisme, je me permets de vous couper, un séparatisme musulman ou un séparatisme des frères musulmans ? Il faut faire la distinction tout de suite.
C'est-à-dire que pourquoi faut-il faire la distinction ? Pourquoi ? Si vous avez des gens si vous avez des musulmans qui sont convaincus par l'argumentaire des frères musulmans, en particulier sur les questions de cantine scolaire, je ne vois pas leur demander s'ils ont leur carte ou pas. Il y a un problème de pratique, de principe. C'est-à-dire qu'effectivement, si on fait la cantine scolaire, c'est pas pour que chacun puisse effectivement imposer ses propres critères. Encore une fois, sinon on supprime un certain nombre de services publics. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et Aouès l'a évoqué, on a utilisé une espèce d'arme atomique qui s'appelle l'apologie du terrorisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un chercheur dit « mais attendez, il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'analyser, etc. » et Burga est exactement dans cette situation-là, on va lui sortir l'apologie du terrorisme comme si, effectivement, il était un terroriste lui-même. Bon. Je rappelle que le général de Gaulle soutenait les terroristes français résistants. Quoi. Si on part sur ce principe-là, on va remonter loin dans l'histoire. Donc cette loi qui a été votée dans l'urgence est une loi stupide. Parce que effectivement, on peut l'utiliser comme une arme absolue, y compris contre des chercheurs. Alors si des chercheurs ne peuvent pas chercher...
Ah ouais, Séniguer, une réaction à ces propos. Et par ailleurs, quand on parle de frères musulmans en France, de combien de personnes parlons-nous concrètement ? Je veux dire, par là, on entend souvent qu'il s'agit de 400 ou 1000 personnes. C'est une fourchaîne que l'on donne. Il y a les chiffres d'un côté, l'influence de l'autre. Décryptez-nous justement cette nébuleuse.
je répondrai en plusieurs temps. D'abord, il y a une forme de contradiction quand on évoque en même temps, hein, si je puis dire, entrisme et séparatisme. Il faudrait savoir, y a-t-il du séparatisme ou y a-t-il de l'entrisme ? Est-ce que les frères musulmans pratiquent et promeuvent le séparatisme ou pratiquent-ils au contraire l'entrisme ? Ça, c'est la première remarque que je ferai et j'y reviendrai si vous le souhaitez. La seconde remarque, c'est encore une fois, c'est par rapport aux visions du monde, au style de vie. C'est Rawls qui parle de style de vie. Il y a une confusion dans le débat public et je pense que cette confusion peut la dater de 2015 et il y a eu un effet d'accélération après 2020 entre, je dirais, une rhétorique islamisante, et il est vrai qu'il existe des musulmans qui peuvent être maximalistes dans des revendications, mais cette rhétorique islamisante n'est pas systématiquement ou forcément à raccorder ou à rattacher à une organisation qui émettrait des recommandations à ces musulmans. Et il y a cette confusion dans le rapport, c'est-à-dire qu'on prête aux frères musulmans réels ou présumés plus de pouvoir qu'ils n'en ont réellement. Alors comment est-ce qu'on peut définir les frères musulmans ? Moi je parle plutôt de néo-frères musulmans depuis 2020, pourquoi ? Parce que ces acteurs français s'inscrivent dans cet héritage, l'héritage de Hassan al-Banna, qui a fondé les frères musulmans en 1928, mais cet héritage correspond à une époque qui n'est plus la nôtre. En d'autres termes, les acteurs s'inscrivent dans cet héritage, pratiquent un certain ethos musulman, très conservateur, mais ne reprennent pas nécessairement à leur compte l'entièreté des revendications du père fondateur. Et cela aussi, le rapport manque la cible, puisqu'il ne distingue pas suffisamment ce qu'ont été les frères musulmans et ce qu'ils sont devenus. Troisième élément pour répondre très directement à votre question, sur la taille ou ce que ça représente, c'est à peu près 200 à 300 associations, si on considère Musulmans de France, qui a été rebaptisé ainsi en 2017. Je rappelle que Musulmans de France, c'est l'Union des organisations islamiques de France, née en 1983. Si on considère cette organisation comme néo-frères musulmanes, alors c'est 200 à 300 associations. Mais il faut immédiatement préciser que les associations qui évoluent dans le giron de cette fédération ne répondent pas forcément aux desiderata de responsables qui seraient animés par une volonté d'islamiser la société. Et quand on interroge les acteurs, moi je pratique le terrain, on n'est pas obligé de croire sur parole les acteurs, mais il faut au moins les écouter. Que nous disent-ils ? Alors moi la question je leur ai posée, qu'est-ce qu'il reste de l'héritage de Hassan al-Banna ? Et la réponse m'a été donnée, c'est cette idée d'organiser la prédication, la transmission d'un enseignement de l'islam, certes conservateur et non pas libéral, mais qui veille scrupuleusement à respecter les lois de la République.
Si on remet en contexte effectivement la création du mouvement des frères musulmans en Égypte en 1928, Pierre connaît ça, il faut remettre le contexte dans son entièreté. L'enjeu premier, j'allais dire, c'est d'abord de s'adresser, de créer un mouvement politique en vue de se débarrasser des Britanniques qui sont en Égypte à ce moment-là. L'objectif également, c'est de rétablir la charia, de rétablir également le califat surtout. Est-ce que les frères musulmans d'aujourd'hui, ceux qui habitent en France, ceux qui y vivent, s'inspirent là encore de ce qui est, de ce qui a été défini en 1928 selon vous ? Ou alors il faut, comme le conseille Awais Séniguer, parler de néo-frères musulmans ?
Oui, je comprends la nuance qu'introduit Awais. Bon, personnellement, je suis pas, comment dire ? Awais raisonne comme un universitaire. Il veut être le plus précis possible dans son analyse, dans la compréhension du phénomène, etc.
C'est important.
Bien sûr que oui, c'est important. Mais en même temps, si vous voulez, il y a un moment où il faut faut pas oublier l'essentiel. Regardez aujourd'hui la situation des frères musulmans. Ils sont interdits en Arabie Saoudite, en Égypte, en Jordanie, en Syrie, à Bahreïn. Et c'est chez nous qu'on se pose la question de savoir comment se comportent les frères musulmans. C'est-à-dire qu'on
autorisé au Qatar et en Turquie pour
oui,
compléter
c'est ça.
Ce que vous dites.
Non, ils sont tolérés en Qatar et en Turquie. Alors vous dites, mais enfin, c'est extraordinaire. C'est un mouvement de réislamisation de la société qui est interdit dans la majorité des États musulmans. Donc, doit-on se poser la question de la finesse de l'analyse vis-à-vis de ce mouvement qui a affiché toujours ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire l'application de la charia? Et effectivement, dans la société occidentale, si on veut vous appliquer la charia, ça veut dire que vous serez en contradiction avec un certain nombre de principes républicains. Bon. Donc, restons sur l'essentiel, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on a raison de flasher maintenant. Et on verra comment on peut gérer la chose. On est dans une situation extraordinaire, quand même. venir se réfugier dans les pays occidentaux pour avoir le droit de dire ce qui est interdit dans les pays musulmans. Et puis si jamais vous êtes frappé d'une OQTF, alors là, vous avez tout gagné, parce que là, vous êtes sûr de rester sur le territoire. Donc il y a un moment où il faut tout remettre à plat, et en particulier les moyens, si vous voulez, de lutte contre ce frérisme. Parce que si c'est sur des théâtres secondaires, ça veut dire que l'école va être polluée, ça veut dire qu'un certain nombre de pratiques sportives vont être polluées. Enfin, on va avoir des comportements séparatistes et communautaristes. Rappelez-vous que ceux qui se vendaient d'être communautaristes, c'est-à-dire les Britanniques, quand il y a eu les attentats de 2005, ils ont viré brutalement le Londonistan. Bon, ça veut dire que on n'a pas de leçon à recevoir. Il faut partir de l'analyse qui est faite dans ce rapport sur la France, et c'est en France qu'il faut trouver des mesures.
Une réaction à Wessel Niguer, vous avez marqué une distinction, j'allais dire, temporelle entre les frères musulmans d'hier, les fondateurs, et ceux d'aujourd'hui. Est-ce que vous marquez la même distinction dans l'espace, les frères musulmans qui vivent dans des pays arabes ou musulmans, et les frères musulmans qui vivent en France, les néo-frères musulmans ?
C'est une question essentielle, et j'ai pour habitude depuis quelque temps à proposer cet axiome en quelque sorte de recherche. Et je dis qu'il ne faut jamais confondre les frères d'aujourd'hui avec les frères d'hier et les frères d'ici avec ceux de là-bas, c'est-à-dire ceux qui évoluent en contexte majoritairement musulman. Parce que les situations sont différentes, les contextes culturels, juridiques, politiques ne sont pas les mêmes. Si vous prenez l'exemple d'un parti que j'étudie depuis presque 20 ans, le Parti de la Justice et du Développement au Maroc, c'est un parti qui évolue dans un environnement très conservateur, qui a donc des discours très conservateurs, voire discriminatoires entre les hommes et les femmes, par exemple, mais qui a renoncé au califat depuis la fin des années 90, dans un contexte pourtant majoritairement musulman. Donc il y a des pratiques légalistes, y compris dans des sociétés très conservatrices. Alors, a fortiori, en France, ceux qui s'inscrivent dans cet héritage ont été contraints et forcés de renoncer à un certain nombre de revendications. Je donne qu'un seul exemple. Le principe laïque, c'est un principe qui est rejeté aux origines des mouvements islamistes. Et d'ailleurs, beaucoup de partis islamistes aujourd'hui, peut-être à l'exception de la Turquie, rejette la laïcité ou le principe laïque, le principe de séparation des églises et de l'État, ou de la religion et de la politique. En France, Musulmans de France a intégré à l'économie de son discours le principe laïque à la fin des années 80. Pourtant, c'est un parti qui s'inscrit historiquement dans cet héritage des frères musulmans. C'est pourquoi il est très important de contextualiser, puisque sinon, on risque de prêter à des acteurs qui évoluent ou qui vivent en France ce que d'autres pensent là-bas.
Je me permets juste, pardonnez-moi, vous êtes à distance, à Wessel Niguer, de vous couper sur ce point-là. Il y a eu, sur ce sujet-là, des polémiques qui impliquaient l'UOIF, qui impliquaient l'Association musulmane de France. Je pense, par exemple, en 2012, lors du débat sur le mariage pour tous, l'UOIF avait assimilé, les personnes homosexuelles à des pratiques zoophiles. Il y a eu des polémiques, il faut aussi les rappeler, elles font partie de cette histoire.
Absolument, et c'est ce que j'ai dit à un journaliste de La Vie, je vous remercie Quentin Lafay d'y faire référence, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les acteurs doivent être comptables de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. En l'occurrence, en 2012, l'UOIF avait tenu ce discours homophobe, au relent homophobe, il faut le dire, il faut pouvoir le dire, mais nous devons être capables, quand je dis nous, à la fois observateurs et décideurs, d'être extrêmement rigoureux et précis et tenir pour responsables les seuls mis en cause, dès lors qu'ils sortent du cadre de la loi. Or, avec la pratique du soupçon, quelqu'un peut être soupçonné de faire quelque chose alors qu'il dit le contraire. Un acteur va vous dire qu'il est légaliste, qu'il respecte la loi. C'est à celui qui le met en cause de faire la preuve de sa culpabilité, et non pas à celui qui est mis en cause de faire la preuve de son innocence. Donc il n'y a pas d'angélisme à avoir. Il faut pouvoir combattre du point de vue de l'émancipation les idées extrêmement conservatrices, quel que soit le courant religieux considéré, mais dès lors que qu'on peut le faire dans un débat sain, pluraliste, sans recourir à des méthodes répressives qui engagent des individus qui ont peut-être rien à se reprocher, ça me paraît fondamental si l'on considère notre société, ce qu'elle est en grande partie, une société pluraliste, démocratique, où le débat est possible.
Vous avez soulevé un peu plus tôt dans cet échange, Pierre Connaissant, un point important. Vous expliquiez justement que ce rapport, en se centrant sur les frères musulmans, manquait peut-être l'essentiel, car on dit beaucoup, on décrit beaucoup le fait que les frères musulmans sont en perte de vitesse, qu'ils ont du mal à recruter aujourd'hui en France, que ces cadres, en tout cas ces représentants, sont parfois vieillissants, et que la véritable dynamique se situe plutôt d'abord du côté des salafistes et dans le même temps du côté des prédicateurs 2.0 qui défendent une dimension religieuse plus centrée sur l'individu, sur la pratique individuelle de la religion. Alors est-ce que ce rapport manque l'essentiel en se centrant sur les frères musulmans uniquement ?
Non, c'était son objet. C'était la question qui était posée.
Oui, mais est-ce que la question est mal posée ?
Bah, non, la question était très bien posée. Il s'agissait de faire le point sur ce qui est justement un comportement de conviction islamiste, mais qui n'agissait pas comme les salafistes par la violence, mais qui agissait sur des terrains secondaires. Et c'est sur ces terrains-là que la difficulté se pose à la République. Je vous citais l'exemple des petites filles voilées. Vous ne pouvez pas faire une loi pour expliquer que les parents ne doivent pas voiler leurs enfants. Donc ce sont sur ces terrains secondaires que justement la cause progresse. Alors que ce soit des néos ou des anciens frères musulmans, m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le rapport a diagnostiqué, c'est-à-dire cette multiplicité des terrains. Vous avez des clubs de football ségrégationniste, c'est-à-dire où on ne voit que des musulmans. Oui, c'est tout à fait inadmissible.
Où ça ?
Ben justement, je n'ai pas des noms en tête, si vous voulez, mais ce sont des choses qui sont relevées par le rapport. Donc moi, encore une fois, je ne vais pas repasser derrière le rapport pour dire, oh là, ils n'ont pas bien fait. Ça, c'est une technique d'universitaire. Hein. Moi, je ne suis pas universitaire, je suis un ancien fonctionnaire. J'ai fait beaucoup de rapports dans l'administration. Je sais très bien qu'il y a toujours quelque chose qu'on oublie. Mais ce n'est pas le principe de la note de bas de page, ce n'est pas la technique des rapports administratifs.
Ah ouais, Séniguer, votre point de vue, est-ce que vous considérez vous-même que la question, en se centrant sur les frères musulmans, en laissant à l'écart de côté les mouvements salafistes, les prédicateurs 2.0, se centrait peut-être sur l'essentiel, ou en tout cas que la question était bien posée ?
Je pense qu'il y a plusieurs chaînons manquants, et je réagis en même temps à ce qu'a dit tout à l'heure Pierre. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont hostiles aux frères musulmans. Depuis au moins 2014, l'Arabie Saoudite a déclaré les frères musulmans organisation terroriste, à partir de 2014. Mais on ne s'interroge pas dans ce rapport sur le rôle joué par l'Arabie Saoudite dans les années 50-66. Je fais amende honorable. Il y a cet aspect qui est évoqué, mais pas le fait que l'Arabie Saoudite ou les Émirats sont hostiles aux frères musulmans, non pas parce qu'ils sont conservateurs sur le plan religieux, mais parce qu'ils sont, ce sont des acteurs contestataires de leur régime d'oppression et de domination. Ça, c'est très important de le dire. Et par ailleurs, vous avez raison de le souligner, les acteurs qui pratiquent un séparatisme ou un rigorisme moral, comportemental, de mise à distance de la société, de refus de la pluralité, de refus du principe laïque, ce sont plutôt les acteurs que j'appelle néo-salafistes, puisqu'il s'agit d'une reconstruction de l'héritage musulman réel ou présumé, et ces acteurs sont totalement absents de ce rapport. On aurait très bien pu, je suis d'accord avec Pierre, l'objet, ce sont les frères musulmans. Mais pour pondérer le regard, le nuancer, peut-être aurait-il fallu une section dédiée à ces acteurs encore plus rigoristes et peut-être plus encore à l'écart au sein de notre société.
La voix du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il s'exprimait sur BFM TV depuis la préfecture des Hauts-de-Seine. C'était le 26 mai. Il parle de cet entrisme qui, selon lui, veut échapper à la règle commune.
Nul ne peut se prévaloir de sa religion, de ses croyances, de ses origines, pour échapper à la règle commune. C'est ce que souhaite faire l'entrisme islamiste, échapper à la règle commune, faire en sorte de tordre la règle commune, faire en sorte de progressivement déplacer la règle commune, l'influencer de telle façon à ce qu'elle devienne compatible avec l'islamisme. L'inscription de cette phrase dans la Constitution, qui, évidemment, dans le paysage politique actuel est complexe, puisqu'encore une fois, il faut une majorité de 3/5, mais réglerait beaucoup de choses, notamment pour un directeur d'établissement hospitalier, par exemple, pour un directeur d'établissement scolaire, pour un chef d'entreprise, pour un président d'association. Ça pourrait être, là encore, quelque chose qui serait intéressant.
Je reviens un instant, Pierre Conessa, sur la distinction que traçait un peu plus tôt dans cette conversation à Ouest Séniguer entre séparatisme et entrisme. On accuse les frères musulmans à la fois de séparatisme, on les accuse de vouloir faire sécession, et dans le même temps d'entrer, de pénétrer les institutions de la République, les clubs de sport. Dans le fond, qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce qu'on peut faire les deux à la fois ?
Je crois qu'il faut les prendre dans l'ordre. Si on fait de l'entrisme pour faire du séparatisme, enfin, il n'y a pas de volonté séparatiste sans présence dans les institutions ou dans les structures pour ensuite afficher son séparatisme. Encore, on est sur quelque chose, encore une fois, qui met la République en difficulté, puisque les sujets sur lesquels vont se poser ces comportements sont en fait des comportements séparatistes, mais sur des sujets où on peut prétendre qu'effectivement la loi de la République n'a rien prévu. Je crois que le ministre a raison de dire qu'effectivement il faut prendre la chose comme un tout, c'était l'objet de ce rapport. Et si on le prend comme un tout, on comprend que c'est une stratégie, que c'est pas une somme de comportements individuels. Et c'est ça que le rapport a apporté.
Il y a page 64 du rapport à Ouest Séniguer, cette citation. Il y a chez les frères musulmans un double discours et une stratégie légaliste. Il reste identifiable. Prééminence de la loi coranique sur la loi de la République, infériorisation de la femme et la dimension religieuse, notamment l'expression de forme antisémite. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ce constat à Ouest Séniguer et au-delà, est-ce que vous considérez vous-même que l'entrisme permet à terme le séparatisme dans la démarche politique des frères musulmans?
En fait, la difficulté, elle est d'ordre sociologique et peut-être que Pierre fait preuve d'anti-intellectualisme un peu trop rapide. Il y a une difficulté à embrasser l'entièreté d'une vérité sociale. Je reprends une expression de Bourdieu qui n'utilise pas de cette manière, c'est ni tout à fait vrai, ni tout à fait faux. C'est-à-dire qu'en effet, il peut exister, moi je le souligne et je le dis, je le répète, il peut y avoir des attitudes de groupes restreints ou d'individus qui veulent faire sécession avec le reste de la société. Cela, je ne le nie pas. Mais considérer qu'il y aurait une stratégie d'ensemble, une volonté d'ensemble d'en découdre avec la République ou de se soustraire à la loi commune, j'ai beaucoup plus de doutes. Je vais vous donner, là encore, quelques illustrations concrètes. Si l'on prend comme illustration Musulmans de France. Musulmans de France a systématiquement échoué dans quelques-unes de ses tentatives. En 2004, lors de la loi du 15 mars 2004, ils y étaient hostiles au départ, ils ont rallié la loi. En 2010, l'interdiction de la dissimulation du visage dans la rue, ils y étaient hostiles au départ, ils l'ont rallié. La loi du 24 août 2021, ils étaient hostiles au départ, ils ont fini par la rallier. Et à chaque fois, ils se sont montrés légalistes, mais en disant cela, je précise, c'est très important dans le contexte actuel, ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas de nourrir une vision du monde très conservatrice, qui ne sont pas très ouverts sur la pluralité religieuse, ou en tout cas sur une lecture critique du Coran, des textes coraniques et des textes de la tradition. Mais ce sont deux ordres de réalité que la proposition du ministre de l'Intérieur ne parviendra pas à rassembler dans une forme de volonté répressive nouvelle ou renouvelée. La loi suffit déjà. Le principe laïque, la loi du décembre 1905, suffit largement pour empêcher que des personnes, quelles qu'elles soient, se réclament d'une religion pour échapper à l'application stricte de la loi commune. Et j'en termine très rapidement. Le plus important, ce n'est pas qu'un individu considère que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Le législateur, la loi, va juger de la compatibilité du comportement extérieur avec la forme de la loi et ne va pas juger la conscience de l'individu. Je donne un nouvel exemple. Quelqu'un peut être hostile intérieurement, et on peut le regretter, à la laïcité, mais respecter intégralement en acte le principe laïque.
Et je rappelle d'un mot hein, que la loi du 15 mars 2004 que vous mentionniez hein, à Ouest Séniguer, il s'agit de la loi qui concerne le port des signes religieux dans le cadre de l'enceinte scolaire. Une réaction, Pierre Conessa, et au-delà, c'est vrai que l'influence peut-être de ces 400, de ces 1000 personnes selon les chiffres, on a du mal à la mesurer. On a du mal peut-être aussi à comprendre à quel point, selon le rapport, elle peut menacer l'intégrité de la République. Est-ce que là aussi, on ne grossit pas trop le trait de cette influence?
D'abord, je réponds à OS, parce que effectivement, si j'ai beaucoup critiqué les universitaires, parce que j'ai toujours en travers de la gorge, si vous voulez, l'histoire de Madame Burchaud-Blaclair, si vous voulez, qui avait fait un travail sur le frérisme et ses réseaux, qui avait donc fait un travail universitaire d'analyse et qui s'est trouvé diabolisé par une grande partie de sa corporation. Et ça, je trouve ça inadmissible.
Elle a publié chez Odile Jacob en 2023 le frérisme et ses réseaux, un ouvrage qui a suscité effectivement beaucoup de polémiques dans les cercles universitaires.
Oui, et puis c'est pourquoi polémique? Il aurait fallu que ce soit un débat. Or là, c'était effectivement de la polémique, vous avez raison. Donc sur le fond, effectivement, on peut dire que quelques 400 personnes ou 1000 personnes, peu importe. Encore une fois, moi, je ne m'attache pas à savoir s'ils ont des cartes de frères musulmans, il n'y en a pas. Donc c'est l'influence réelle des groupes tels qu'ils agissent aujourd'hui et la façon dont ils vont éventuellement bloquer certains fonctionnements de la République. Le reste, effectivement, si on n'oppose pas à ces moments-là une volonté politique forte Et Dieu sait qu'effectivement, il y a eu beaucoup de débats. Regardez aujourd'hui les positions de la France insoumise sur ces questions. C'est-à-dire qu'on a l'impression que à chaque fois qu'on pose une question, on diabolise, on stigmatise, on vilipende, etc. Bon, moi, je sors un bouquin sur victimisation et repentance parce que je trouve ça tellement extraordinaire la façon dont aujourd'hui, si on se statufie comme victime, vous avez le droit de critiquer tout le monde. Bon, là, je suis désolé. Il vaut mieux être frère musulman en France qu'en Arabie Saoudite. Il faut que je le répète ou c'est pas la peine? Vous regardez le paradoxe, il est extraordinaire. Les frères musulmans sont interdits dans une grande partie des pays musulmans. Et rappelez-vous que la première émanation en Algérie, c'était le fils. Et vous avez vu comment l'armée a réagi. Ils se sont payés 10 ans de guerre civile. Donc il y a un problème identitaire à l'intérieur du monde arabo-musulman et qu'il ne faut pas le transposer ici.
Ah ouais, Sénigar, il y a des dimensions plus positives dans ce rapport, hein, notamment la promotion, la diffusion des savoirs critiques, le soutien des travaux en islamologie. Vous considérez vous-même que c'est un point important, j'allais dire, pour familiariser, au-delà d'ailleurs des cercles musulmans, les Français à ces questions?
C'est fondamental et je pense que c'est un aspect très positif du rapport. Et j'y souscris complètement, puisque depuis une dizaine d'années, j'enseigne les origines de l'islam à Sciences Po Lyon, et j'ai un triptyque à cet égard qui va dans le sens du rapport, historiciser, relativiser, éthiciser. Quand on propose cette approche critique aux étudiants, fussent-ils musulmans, ils en prennent acte et ils sont très favorablement engagés dans cette voie. Il est tout à fait possible de rester optimiste à ce titre. Et le rapport, en engageant le débat sur les savoirs critiques, nous rend optimistes. Hein. C'est pourquoi je dis que ce rapport contient des aspects très, très discutables, mais d'autres aspects tout à fait positifs. Mais et cela doit pouvoir se faire dans un esprit de sérénité. Que ceux qui manquent à la loi soient sanctionnés, je n'y trouverai rien à redire. Mais que le soupçon pèse de cette manière sur des musulmans visibles ou conservateurs, cela me peine davantage.
Pierre Conessa, vous en voulez aux universitaires, mais la promotion, la diffusion des savoirs critiques, vous les soutenez?
Ah ben non, mais c'est très très bien. Beaucoup des propositions du rapport sont simplement des constats qu'on a mis trop de temps à mesurer. Pensez que des enfants qui arrivent en France et qui ne parlent pas la langue de leurs parents, c'est quand même extraordinaire. La République doit les aider, si vous voulez, à pratiquer. Alors, après, il y a un problème d'enseignement de l'arabe. Hein. C'est lequel? L'arabe maghrébin ou l'arabe coranique ou l'arabe classique, etc. Bref.
Mais enfin, le rapport, effectivement, propose le soutien, le développement large de l'enseignement de la langue arabe.
Voilà, exactement. Qui est finalement une manière générationnelle de réconcilier les enfants avec les parents. Puisque vous aurez des enfants qui sont dans le système français. Alors, cela dit, ça n'est pas tout quand même. Pensez quand même que la France a subi 2 traumatismes. Qui était évidemment la mort de Samuel Paty et la mort de Dominique Bernard. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que pour le cas de Samuel Paty, c'était un Tchétchène. C'était un Tchétchène, parent réfugié. Vous savez, les Tchétchènes, les pauvres massacrés par les Russes. Les Russes n'arrêtaient pas de nous dire, attention, les Tchétchènes sont des gens dangereux. Le jeune Anzorov arrive à l'âge de 2 ans. Il va tuer Samuel Paty à l'âge de 12 ans. Or, il a fait l'école républicaine. Bon. Donc, s'il s'est islamisé, c'est dans sa famille. Donc on pose une question, c'est la politique du droit d'asile, est-elle suffisamment, crible-t-elle suffisamment? Le cas de Dominique Bernard est encore plus extraordinaire, puisque là c'est un Ouzbek. Et pareil, lui il était quand même élève de Dominique Bernard, tandis que Anzorov n'était même pas élève de Samuel Paty. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des pays dans lesquels la diplomatie française a une vision, a une activité extraordinaire. C'est une politique du droit d'asile qui considère que tout individu, s'il est massacré par son gouvernement, a le statut de réfugié politique en France. Mais encore une fois, Hitler, le pauvre, il était en prison en 23, vous savez. Donc si on l'avait accueilli comme réfugié politique, vous voyez à peu près l'erreur d'analyse politique qu'on aurait faite. Donc on est sur quelque chose où on était dans une espèce de droit de l'homisme qui était insuffisamment critique à l'égard de la politique du droit d'asile. La France, pays des droits de l'homme, c'est bien, mais enfin des droits de l'homme qui respectent les principes des droits de l'homme.
Voilà. Vous voyez d'ailleurs que la question donc va bien au-delà des frères musulmans, Pierre Conessa. Je voulais vous interroger, Awad Sénigar, sur une forme d'entrisme dont on entend beaucoup parler. Et je voulais avoir votre avis, là encore une fois, sur la réalité sociale de cet entrisme dit municipal. Je cite encore une fois le rapport, c'est page 51. Certains spécialistes consultés considèrent que d'ici une dizaine d'années, certaines municipalités seront à la main d'islamistes, à l'image de la Belgique ou au moins 5 communes bruxelloises comme Saint-Josse, où Molenbeek, composé d'une écrasante majorité d'habitants d'origine étrangère, présente les caractéristiques de territoires confisqués où le contrôle social des islamistes sur la population apparaît presque complet. Fin de citation, j'allais dire la charge est rude. Est-ce que là aussi, cela correspond à ce que vous observez sur le terrain et dans vos travaux de recherche ?
Alors, il y a un travail qualitatif qui a été mené et quantitatif par Vincent Gesser sur le vote musulman. Et à cet égard, il est très clair. Il y a un engagement de certains musulmans dans des listes électorales. Le problème, encore une fois, c'est dès lors que quelqu'un s'engage éventuellement au nom de sa foi, est-ce qu'il pratique une forme d'entrisme ? Est-ce qu'il a une volonté de dominer un territoire ? Et il faut donner des exemples empiriques pour relativiser cette crainte. Quand vous prenez le cas de l'Union des démocrates musulmans de France, c'est un parti musulman, considéré à tort ou à raison comme islamiste. Je ne pense pas que ce soit un mouvement islamiste, mais à titre, je dirais, d'expérience de pensée, on peut le considérer comme islamiste. C'est un mouvement qui a recueilli que très peu de voix, y compris dans des quartiers majoritairement peuplés de musulmans. Donc on peut estimer que cet entrisme, s'il est réel, il n'a que très peu de prise sur les citoyens de ces quartiers populaires qui demandent quoi ? Qui demandent des services publics, des services qui permettent aux enfants d'accéder à la culture, etc. Et non pas l'application de la charia. Et je dis souvent que un exemple d'entrisme serait la démonstration d'acteurs musulmans organisés qui demanderaient des tribunaux islamiques, qui demanderaient l'exclusion de toute forme de vente d'alcool ou de viande de porc dans des magasins ou des supermarchés. Je connais un peu les quartiers populaires, ce n'est pas le cas. Donc cela permettrait d'objectiver cette réalité. Or, le rapport part peut-être de quelques acteurs qui ont cette volonté, mais ne prend pas en compte l'entièreté de la réalité qui appelle à un peu plus de nuances.
Pierre Conessa, en quelques mots, il nous reste une minute sur ce sujet, sur cette forme d'entrisme. On joue à se faire peur ?
Écoutez, moi je suis très frappé du fait d'avoir ce débat avec Aouès, parce qu'Aouès est l'exemple même du français de culture musulmane qui a trouvé sa place dans cette société, qui fait pas de militantisme, qui se contente d'analyser, qui est un véritable universitaire. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, le véritable processus, c'est l'intégration silencieuse.
Bon, mais ne parlons pas pour lui, parce qu'il n'est pas avec nous, il est à distance.
Oui, je sais qu'il ne va pas me contredire, mais moi je le salue, parce que c'est ça que je trouve intéressant. C'est que lui-même donne son analyse, et avec une sensibilité qui n'est pas la mienne. Donc je trouve ça formidable qu'on puisse en débattre comme ça. Et sur le fond, effectivement, ce rapport est une espèce d'électrochoc. On verra effectivement qu'est-ce qui va en sortir. Mais on a l'avantage d'avoir ciblé sur un mouvement qui, encore une fois, est dans les fronts secondaires. Et c'est sur ces fronts secondaires qu'on a beaucoup de mal à résister et avoir une posture critique, si vous voulez, qui freine la chose. Et évidemment, il n'y a pas de carte frère musulman, répétons-le.
Merci donc à tous les deux de cette discussion, de ce débat. Même Aouès Séniguer, vous êtes maître de conférence HDR à Sciences Po Lyon et chercheur au laboratoire Triangle. Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense et spécialiste des mouvements islamistes. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Questions du Soir.